Décrypte, le podcast de l'actualité numérique en Afrique, avec Adil Abdelali.
Et aujourd'hui, je reçois Hichem Chegel, président fraîchement réélu pour un deuxième mandat à la tête de l'OSIM, l'association des utilisateurs des systèmes d'information au Maroc. Hichem Chegel, bonjour et merci de nous accorder cet entretien.
Bonjour, ravi d'être parmi vous.
Entretien que nous allons consacrer à un sujet qui est au cœur de votre action, je pense, et de vos préoccupations au niveau de l'OSIM, à savoir les défis des directeurs des systèmes d'information au Maroc et en Afrique d'une manière générale à l'ère des technologies disruptives, l'IA générative en particulier. L'intelligence artificielle, là je vais rappeler des évidences, transforme, on le sait, le paysage technologique mondial. Dans ce contexte, comment vous, au niveau de l'OSIM, vous voyez justement l'évolution de ce métier de directeur des systèmes d'information ? Aussi bien au Maroc qu'à l'échelle du continent africain, qui, on le sait, reste le continent le plus ciblé par les cyberattaques.
C'est un sujet qui est très à la mode, mais aussi c'est un sujet profond. C'est un sujet profond parce que l'intelligence artificielle a été pour plusieurs années, on va dire, la quête des DSI, des CDO, et aussi de voir comment l'intelligence artificielle peut apporter de la valeur au niveau de l'entreprise. Mais je pense qu'après maintenant la sortie de ChatGPT, plus spécialement il y a un peu plus d'un an, a créé un petit peu la rupture et surtout la proximité de cette technologie vis-à-vis du grand public.
Oui.
Et je pense que c'est la grande différence aujourd'hui à travers l'intelligence artificielle générative. Et donc du coup, on n'est plus en train de parler de comment on va trouver les compétences rares de l'intelligence artificielle pour pouvoir... faire des prototypes, de créer des POC pour pouvoir voir comment on peut servir notre business, comment créer un nouveau service, une nouvelle prestation, un nouveau produit, ou comment juste changer un petit peu la donne au niveau de l'entreprise. Mais on est en train de dire que toute personne qui a toute problématique, quelle que soit sa nature, elle est possible d'être augmentée par cette intelligence artificielle générative. Et donc... Et ça va au-delà de l'entreprise, donc elle va dans tous les métiers, dans toutes les expertises. On a vu que ChatGPT a réussi les examens de notariat, les examens de grandes écoles, etc. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, elle a la maturité nécessaire pour pouvoir servir un certain nombre de sujets. Et qui dit servir un certain nombre de sujets dit... rendre les choses beaucoup plus performantes. Et c'est là où ça change complètement la donne. Ça change complètement la donne parce qu'on a une question de temps. Ça veut dire que le temps aujourd'hui, avant on avait des difficultés à pouvoir mettre en place cette intelligence artificielle dans les projets pour transformer un service, un produit. Aujourd'hui, avec l'IA générative, ce qu'on faisait en un an, on peut le faire en quelques semaines. Et c'est là où c'est magnifique et dangereux en même temps. Et je dirais pourquoi c'est dangereux. C'est magnifique parce que pour les gens qui ont la foi sur le fait de mettre cette technologie au service de l'entreprise et au service de l'humain, on va le mettre à bon escient, on va le traiter de telle façon à ce que ça rentre dans la nouvelle façon de gérer l'entreprise et de faire du business. C'est dangereux. Pourquoi ? Parce que si je ne fais rien en tant qu'entreprise ou en tant que professionnel expert, il y a les autres qui vont le faire. Et quand les autres vont le faire, forcément, de façon directe ou indirecte, je vais commencer à avoir l'impact de la différence en termes de marché, en termes de...
Je serai largué, pour faire simple.
Voilà, exactement. Ça veut dire que demain, je n'aurai plus la compétitivité nécessaire pour pouvoir avancer ou pouvoir créer de la valeur parce que tout simplement, je n'ai plus les mêmes parts de marché, je n'ai plus les mêmes services, etc. Et donc ça, c'est très important. Et la question de temps, elle est importante au niveau de l'intelligence artificielle générative aujourd'hui. Comme tous les entrepreneurs, comme tous les patrons des boîtes, ce qu'ils veulent, c'est des résultats. D'accord ? Donc, il faut les convaincre. Mais il ne faut pas attendre un an pour avoir un résultat.
Oui.
Donc là, avec cette nouvelle technologie, ça permet de pouvoir aller plus vite et de réussir plus vite ou d'échouer plus vite. Mais en tout cas, on a un résultat très rapidement. Et après, on peut scaler effectivement ce résultat-là et ce produit-là. Et ça change complètement la donne parce qu'on est en train de réduire le temps pour pouvoir aller vers cette technologie-là. Et les DSI, alors, ils ont un grand challenge à ce niveau-là. Il y a des DSI qui disent, qui sont appétents à la technologie, donc ils disent, OK, je vais tester, je vais regarder ça et je vais me lancer. Et il y a d'autres qui disent, bon, pour le
Sont
moment, je
réticents.
fais rien, j'attends jusqu'à ce que ça soit mature, jusqu'à ce que tout le monde teste, etc. Mais généralement, les premiers deviennent des leaders ou restent des leaders
Eh oui.
parce qu'ils prennent des risques. Et les autres, bah forcément, ils perdent leur poids même au sein de l'entreprise parce que parfois, on peut se retrouver avec des gens dans le métier qui sont appétents à la technologie, qui veulent tester. Et
Mais qui
si
sont.
le DSI ne le fait pas avec eux, bah ils vont aller le faire ailleurs. Et c'est pour ça que je reviens sur l'enquête que nous avons lancée au niveau du CIO Survey, la deuxième édition.
Oui.
Bah celle-là, effectivement, elle montre que le changement de rôle du DSI, bah il est important parce que sinon il sera largué. Il ne sera plus considéré comme étant le référent en matière technologique, alors que normalement il doit jouer ce rôle de leadership sur le plan technologique, mais aussi en accompagnement du métier.
D'où la nécessité pour la direction des systèmes d'information, et je pense que vous faites partie de ceux qui prônent la prise de cette technologie disruptive et de son implémentation dans le travail quotidien du directeur du système d'information, à moins que je me trompe, mais je pense que le sens de votre prise de parole est très clair. D'où la nécessité donc pour la DSI d'élaborer des stratégies dès aujourd'hui qui intègrent l'IA d'une manière ou d'une autre. Quelles devraient être donc dans ce sens, selon vous, les composantes clés de cette stratégie? Bien sûr, ça diffère d'une entreprise à une autre, d'un secteur à un autre, mais globalement, les points centraux pour assurer justement une adoption réussie de l'IA générative au niveau des entreprises.
Alors, je dirais de manière très claire, c'est au niveau organisationnel. L'enjeu est plutôt organisationnel, beaucoup plus que technologique. Le DSI, alors, il doit être porteur de nouveaux sujets et il doit venir à chaque fois donner quelles sont les tendances technologiques et quels sont peut-être les apports de ces technos au sein de l'entreprise, en mettant en place un certain nombre de cohérence technologie versus métier, d'accord, core business. Et donc, en venant avec ces tendances, avec cette sensibilisation, on va devoir créer des liens et des ponts sur ce que permettraient ces nouvelles technologies pour accroître la productivité, la performance et l'excellence au sein de l'entreprise. Et à travers ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra, et ce que je dis toujours, quand on met en place une stratégie, généralement en entreprise, elle met une stratégie sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans. Moi, ce que je dis, c'est une stratégie qui peut être effectivement faite à moyen et long terme, mais la stratégie, elle doit être revue chaque année. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des tendances disruptives, et cette fois-ci, c'est l'intelligence artificielle générative. Si une entreprise a mis en place une stratégie en 2022,
Oui,
début
avant l'émergence
2022,
de
avant
ChatGPT, oui.
l'émergence de ChatGPT, il doit attendre 5 ans pour revoir sa stratégie, il sera forcément largué au niveau de la compétition, au niveau de sur le terrain. Donc, c'est important qu'on puisse réviser à chaque fois la stratégie de telle façon à la mettre en coordination avec ce qui se fait comme tendance internationale, regarder le marché et surtout, la stratégie doit intégrer aussi des prototypages et des POC pour pouvoir travailler main dans la main avec les gens du métier et pour pouvoir faire des POC, travailler sur des petits sujets
Oui.
et regarder qu'est-ce que ça donne. Des mini chantiers, mini résultats, on avance et au fur et à mesure, et après on aura la capacité de scaler. Et cette fois-ci, la scalabilité, elle est beaucoup plus rapide que ce qu'on avait la tendance de le faire par le passé. Et c'est là où il faudra qu'on prenne la main des gens du métier et qu'on travaille ensemble. C'est de la collaboration et c'est de la co-réalisation. Et il ne faut pas qu'il y ait juste un sponsorship, mais il faudra qu'il y ait un travail ensemble et on est responsable sur tout ce qui va être fait. Ce n'est pas je prends le lead et je te donne, et comme ça, si c'est réussi, c'est moi le plus fort. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Quand on travaille ensemble. Quand c'est une réussite de tout le monde. Et quand c'est un échec, on regarde pourquoi ça n'a pas marché. C'est toujours une expérience et un learning. Et ensuite, on capitalise sur ça et on continue. Et ça, c'est très important.
Alors, tout à l'heure, en préambule de cet entretien, pour parler de l'IA générative, vous avez évoqué effectivement à la fois les opportunités qu'offre cette IA pour les DSI, mais aussi les menaces et les dangers. Et l'une des menaces ou des risques les plus évidents, j'ai envie de dire, c'est effectivement des gens mal intentionnés qui utilisent la puissance de cette IA générative pour avoir une force de frappe en termes de cybercriminalité beaucoup plus impactante pour les organisations. De ce point de vue, quels sont justement, selon vous, les risques majeurs pour les entreprises africaines d'une manière générale, qui déjà, avant l'émergence de cette IA générative, étaient larguées en matière de cyberdéfense par rapport aux organisations d'autres continents. Compte tenu du contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, celui de l'IA générative, quels sont les risques majeurs et que doivent faire justement ces entreprises africaines pour essayer de, entre guillemets, limiter la casse?
Oui. Alors, l'IA en matière de sécurité ou de cybersécurité, elle avait démarré il y a quelques années, c'est-à-dire bien avant ChatGPT. Mmh. Hein. Et donc, moi-même, j'avais utilisé on avait déployé un certain nombre d'outils basés sur de l'IA, donc sur du machine learning, etc., pour pouvoir aussi détecter des menaces qui ne sont pas déjà inscrites dans un registre, etc., qui ne sont pas encore identifiées. Et de voir un petit peu la traçabilité au sein de l'entreprise. Et je pense qu'aujourd'hui, on a une maturité qui est beaucoup plus importante qu'il y a quelques années, parce que la technologie a évolué. Et aujourd'hui, de la même façon que les hackers utilisent l'IA, l'entreprise doit faire de même
pour le pouvoir, DSI aussi, surtout.
Bien sûr, oui. L'entreprise, à travers son DSI, doit utiliser l'IA en matière de cybersécurité pour pouvoir contrecarrer ces attaques-là, parce que de toute façon, les méthodes changent et les hackers, ils innovent. Je pense que c'est important que les DSI continuent à innover de la même façon et au même rythme que les attaquants, parce que s'ils ne le font pas, de toute façon, l'entreprise sera mise à chaos. Et comme on dit toujours dans la cybersécurité, le risque zéro n'existe pas, quand bien même qu'on ait des budgets astronomiques. Par contre, on va juste rendre la tâche difficile à un hacker de pouvoir accéder à nos installations et notre environnement de travail. Et ce qui est important aussi, c'est que à un moment donné, quand on le rend difficile, soit il va se retirer, soit on va le savoir, parce qu'on aura les outils pour le faire, et on pourrait éventuellement bloquer les accès pour qu'ils puissent accéder. Et ça, c'est quelque chose sur lequel ça se travaille, et c'est un travail continu. Hein. Ce n'est pas quelque chose qu'on met en place et on oublie, mais c'est quelque chose qu'il faut continuer. Il faut toujours être, voir les tendances, etc. Et ce qui est important aussi, c'est que les décideurs deviennent de plus en plus sensibles au sujet de l'IA et de la cybersécurité. C'est les deux éléments que les top managers commencent à comprendre et commencent à aussi demander à leur DSI de voir les choses et comment on peut mettre les choses dans la mesure du possible. Et je pense que ça, c'est important vis-à-vis des entreprises africaines. Et ce qui est important aussi, c'est que parce qu'on est en contact aussi avec les clubs de DSI, un certain nombre de clubs de DSI africains. Exactement. D'ailleurs, on était ensemble au premier JITEX de l'année dernière. Oui. Donc, on avait invité nos amis et confrères présidents des clubs de DSI. On refait la même chose cette année, Inch'Allah, pour la deuxième édition. Et l'idée, c'est aussi de discuter ensemble sur les sujets d'actualité et les vraies problématiques des entreprises africaines. Les maturités des entreprises africaines diffèrent d'un pays à un autre. On n'est pas tous égaux. Et c'est aussi important de pouvoir créer cette dynamique africaine, de pouvoir échanger. Et je pense que l'échange est très important, que ce soit avec nos amis du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, etc., de la Guinée et tout. Et je pense que c'est aussi très intéressant. Il y a quelques mois, il y avait aussi un sujet au niveau de la République démocratique de Congo où le président, ce qu'ils appellent le coordonnateur de l'équivalent de l'ADD,
Oui.
d'accord, qui m'appelle et qui me dit, écoute, on veut avoir l'équivalent d'un OSIM.
Un club de DSI en RDC.
Exactement, en RDC. Et en fait, il m'a invité à pitcher pour une journée. C'était une journée spéciale pour les DSI. Il y avait les DSI du secteur public et du secteur privé. Et l'idée, c'était de partager. C'était de partager ce que faisait l'OSIM, comment elle est constituée, comment elle a été créée, pour quelles raisons elle a été créée, mais aussi quels sont les, voilà, ce que nous faisons autour de ces sujets-là. Et donc, on a sorti tous les livres blancs, le contenu scientifique, que ce soit sur la sécurité, la data, la transformation digitale, et ainsi de suite. Et il y avait un intérêt très, très poussé de la part des DSI de pouvoir se lancer sur cette aventure-là, qui certes n'est pas simple pour
Oui.
créer, mais je pense
Mais qui est utile
qui est très
quand
utile.
même.
Et donc, je pense qu'ils sont en train de travailler pour pouvoir le mettre en place. Et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose d'avoir une dynamique de DSI, que ce soit du privé ou du public, qui travaillent ensemble, qui partagent, qui créent du contenu, qui débattent, etc. Et pas plus tard avec le club de Mali. Donc, aussi, il y a un webinaire qui a été aussi, qui va être lancé avec le club de DSI Mali sur un sujet. Et donc, ce sujet-là, voilà, il va être partagé entre des Marocains, des Sénégalais et des Maliens. Et c'est important, et je pense que c'est important de pouvoir continuer à travailler ensemble, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir arriver à un moment donné à être beaucoup plus mature et de se rapprocher des tendances internationales.
Bon, bah écoutez, nous allons conclure sur cette dernière réflexion, effectivement, cette notion de partage d'expérience. En tout cas, Hichem Chéguer, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, à notre invitation. Merci, à bientôt.
Merci beaucoup, très bonne journée.